Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses quand on parle des psaumes. Hein. Là, Ruben, il mieux, on va parler des psaumes en quelque sorte en 24 heures, quoi, plus ou moins. Hein. C'est tout un défi hein, de parler des psaumes. En fait, en théologie, il y a tellement de travail qui a été fait sur des psaumes que j'ai ramassé il y a plusieurs années une bibliographie de plus de 60 pages juste avec des commentaires, des articles sur les psaumes, etc. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. Mais heureusement qu'on n'a pas besoin de tout ça hein, pour que Dieu nous parle. Autrement, on regarde ça, on est découragé. Moi, j'aime beaucoup ça lire, mais quand je vois des biographies comme ça, c'est que je me dis, oh, j'arriverai jamais à lire tout ça. Là, tu sais. Mais heureusement que Dieu nous parle au travers de sa parole. Hein. Et on n'a pas besoin de lire toutes ces ouvrages spécialisés. Même d'en avoir une coupe, c'est déjà bien, c'est déjà bien utile, non mais c'est vrai. Et voilà. Alors, on va regarder un autre psaume. J'ai choisi différents psaumes pour faire que ce soit un petit peu varié. Donc, on a parlé du psaume 1 hier. Et le psaume 1, c'est un beau psaume qui sert d'introduction et qui nous présente deux voies, celle du juste et celle du méchant. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, le psaume 1 est en train de dire, si tu aimes vraiment la parole, si ton rapport avec la parole est beaucoup plus qu'un rapport de devoir. Ah, je dois lire ma parole tous les jours, parce que Ruben, il m'a dit qu'au GBU, il faut lire ma parole tous les jours. Tu sais. Non, mais si mon rapport avec la parole de Dieu, c'est bien plus que qu'un devoir. C'est sûr qu'on a des devoirs face à Dieu, c'est certain. Mais la vie chrétienne, ça dépasse les devoirs. Tu sais, j'ai des devoirs vis-à-vis de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants, mais l'amour que j'ai pour eux fait que mon rapport avec eux dépasse simplement celui du devoir ou de la responsabilité. Et quand votre rapport avec la parole de Dieu dépasse celui du devoir, je dois lire la parole de Dieu, et que vous lisez la parole de Dieu parce que vous aimez la parole de Dieu, là, ça fait vraiment une différence dans votre vie. Et j'ai plusieurs fois prié Dieu en disant à Dieu, donne-moi l'amour de ta parole. En fait, je considère que c'est un privilège pour moi d'avoir pu étudier la Bible dans les institutions à travers lesquelles je suis passé, parce que malgré le stress des études, vous savez ce que c'est. Le Seigneur m'a permis d'aimer ce que j'étudiais. Et en fait, ce qui pour moi est une motivation, sans que ça soit évidemment parfait, parce qu'on a tous des périodes dans nos vies, ce qui a été pour moi une motivation profonde dans mon ministère, ça a été l'amour de la parole de Dieu. Parce que dans le ministère, ça ne va pas toujours très bien. Comme dans nos vies. Tiens, Ruben, tu ris toi aussi. Et peut-être que si vous servez dans vos églises ou dans des églises, vous êtes rendu compte qu'il y a des problèmes. Et que parce que vous êtes dans l'église, cette église est devenue moins parfaite. Ah non, je plaisante, mais c'est vrai, hein. Et parfois, quand on fait face aux difficultés, on a envie de tout abandonner. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Hein. On dit qu'il y a peut-être autant de chrétiens en dehors des églises que dans les églises. Mais s'il y a eu des abandons, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait basculer les gens de notre côté, du mauvais côté. Alors je peux comprendre toutes les mauvaises expériences qu'on peut vivre dans les églises locales. Quand vous êtes ouvrier, là, je vous garantis que vous pourriez écrire des bouquins sur ce qui se passe dans les églises locales, puis ça se vendrait comme des petits pains. Des petits pains chauds en plus. C'est bon. Malheureusement, c'est ça, la nature humaine. C'est ça. Mais pourquoi certaines personnes persévèrent et d'autres lâchent? Moi, je crois qu'une des raisons, c'est l'amour pour la parole de Dieu. Parce que si on aime la parole de Dieu, ça veut dire qu'on veut se nourrir et qu'on veut la mettre en pratique. Et que quand je la mets en pratique, je cède à mes impulsions pour faire ce que Dieu me demande. Et je vous le dis, ça va faire 35 ans que je suis dans le ministère pastoral l'année prochaine. À plusieurs reprises, j'avais envie d'envoyer tout promener. Et ce qui m'a empêché d'envoyer tout promener, c'est toujours que la parole de Dieu était pour moi une stimulation, un moyen de renouveau, de redécouvrir la volonté de Dieu, comme si c'était nouveau, tu sais, de pouvoir me dire, oui, je repars avec des nouvelles forces, je repars avec une nouvelle vision, je repars avec un nouvel encouragement, même si la situation ne s'y prêterait pas. Et à travers tout ça, bien Dieu soutient. Comme j'ai dit hier, cette année, c'est le 500e anniversaire de la réforme, et j'ai présenté dimanche dernier à notre église un résumé de la réforme avec des diapositives. Là, ça dure à peu près une heure. Mais on peut voir vraiment que ce qui a permis la réforme, c'est la parole de Dieu. D'abord, cette parole était imprimée avec Gutenberg, et cette parole a été traduite. Elle est tombée entre des mains d'universitaires, comme Calvin, Farel, qui étudie à Paris, qui ont eu entre les mains des exemplaires du Nouveau Testament en grec. Ce même exemplaire du Nouveau Testament a été tombé entre les mains de Luther. Et c'est la parole de Dieu que des gens ont lue et qui sont sentis interpellés, qui ont été changés par la parole. C'est cette parole de Dieu qui a fait en sorte que la réforme a commencé. Et c'est cette même parole qui veut être à l'origine de réveil aujourd'hui. Tout réveil qui n'est pas centré sur la parole de Dieu est voué à un succès superficiel. C'est pas plus compliqué que ça. Si on étudie les réveils dans l'histoire de l'Église, là, les réveils qui sont vraiment des réveils qui portent vraiment le nom de réveil, ce sont des mouvements qui ont été centrés autour de la parole de Dieu. Et on ne mettra jamais assez l'accent sur la centralité de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est au centre, ça veut dire que Christ lui-même est au centre. Parce que Christ, c'est la parole incarnée. Donc, c'est pas étonnant que le psaume qui sert d'introduction au psautier nous parle de celui qui médite la parole jour et nuit, qui l'aime, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puis souvent, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, étudier la parole. On préfère aller évangéliser, on préfère le ministère, on préfère l'action. Mais l'action sans la parole, ça ne mène pas à grand-chose. OK, superficiellement peut-être, mais en profondeur, ça n'amène pas à grand-chose. Donc, c'est dans ce contexte que je voudrais regarder avec vous le psaume 90. Psaume 90. Et avec le recul, je me suis dit, c'est pas juste un psaume pour les vieux. Même si Moïse, dans ce psaume, nous encourage à compter nos jours. Parce que si tu commences à compter tes jours à l'âge que j'ai, c'est un peu trop tard, parce que tu ne pourras pas rattraper ce que tu auras manqué. Mais si tu comptes tes jours au début de ta vie, ça se peut que quand tu arrives à la fin de ta jour, tu dis au Seigneur, Comme Jésus a dit, j'ai accompli ce que tu m'as demandé d'accomplir. Tu n'as pas de regret si tu comptes bien tes jours. Alors, lisons cette prière qui est la prière de Moïse. Donc, ce psaume-là est une prière. Et c'est une prière écrite par un homme d'expérience. Hein ? Moïse, un homme d'expérience. Et c'est une prière écrite par un homme de Dieu, comme l'Ancien Testament n'en a plus vu après lui. Un homme de Dieu extraordinaire, unique, à travers l'histoire du peuple d'Israël. Verset premier, j'ai toujours dans la version de Genève. Est-ce que oui. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Drôle d'expression, hein, rentrer dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. On a l'impression qu'on peut cacher des choses à Dieu. C'est de la folie. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite, le temps passe vite. Et nous, nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. J'espère qu'il a fait ça pour vous déjà ce matin. Avant même que nous déjeunions, imaginez-vous. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Alors lorsque le matin je lis la parole de Dieu, et que Dieu me rassasie de sa bonté, je ne vais pas pointer. Vous savez, avec la carte là, je punch. Ah, j'ai fait ce que j'ai dû faire ce matin. C'est pas ça, hein? Le texte nous dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Vous voyez, ce n'est pas du légalisme, lire la parole de Dieu. C'est une question de joie, c'est une question d'épanouissement. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Vous voyez, Moïse, il a vu l'humiliation du peuple d'Israël. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, merci pour ce psaume, merci pour ta parole. Seigneur, fais-nous aimer ta parole, vraiment. Fais que nous puissions la désirer ardemment. Et cela même si nous faisons face à des difficultés pour la lire, pour l'interpréter. Il y a tellement de distance sociale, culturelle, historique entre nous et les auteurs. Mais Seigneur, nous croyons que c'est ce moyen que tu utilises pour nous parler. Donc fais grandir en nous cet amour pour ta parole. Que ce soit un amour grandissant. Nous t'en prions. Amen. Alors, ce psaume, je vais passer rapidement sur l'introduction. Vous le voyez à l'écran. On a dit que c'est une prière, que c'était une prière faite par un homme d'expérience. Même si dans notre société aujourd'hui, nous négligeons beaucoup l'expérience de ceux qui ont des cheveux blancs. En fait, mon père, il était blanc à 40 ans. Et je ne l'ai pas battu parce que je n'étais pas tout à fait blanc à 40 ans, mais je blanchissais pas mal. Et ça me plaît là, quand je lis dans les proverbes que les cheveux blancs, c'est la couronne du vieillard. Ben, j'aime pas trop le mot vieillard, mais en tout cas, je préfère le mot couronne. Ruben, il dit amen parce que ça vient bien. Pour toi aussi. Là. Non, mais c'est vrai, dans une société où vraiment, bon, quand quelqu'un est à la retraite, la personne est à la retraite, elle n'est plus dans le milieu actif, tu sais. Elle ne fait plus partie de la population active. Donc, bon, elle a passé son temps, comme on dit maintenant, elle laisse la place aux autres. Mais dans d'autres sociétés, comme vous le savez, l'importance des personnes âgées est capitale. Hein. Et on respecte les personnes âgées. C'est sûr que chacun doit avoir sa place. Hein. Il y a un temps pour tout, c'est certain. Mais il y a un respect. Puis il y a ici Moïse. C'est un homme qui nous raconte le fruit de son expérience dans ce psaume. Et l'expérience de Moïse était quand même assez spéciale. Hein. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Donc, au verset 1er, puis au verset 2, nous avons une introduction au psaume. On identifie l'auteur, prière de Moïse, homme de Dieu, donc il y a du poids à ce qu'il dit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc on présente vraiment dans cette introduction le Seigneur qui, Adonai, c'est le terme en hébreu pour le mot Seigneur, qui est un refuge, qui est notre maison, qui est notre forteresse, et il l'est de génération en génération. Et c'est-à-dire que Dieu ne change pas dans ce qu'il est pour son peuple. Ce qui change, par exemple, c'est l'expérience du peuple. Parce que l'expérience du peuple, à chaque génération, c'est une expérience qui doit se refaire. Ce n'est pas parce que mes parents ont marché avec Dieu qu'automatiquement, moi, je marche avec Dieu. C'est-à-dire que mes parents ont construit leur histoire avec Dieu. Ma mère a 90 ans, bientôt, mon père 86. Ils ont construit leur expérience avec Dieu. Et à mon tour, il a fallu que moi, je construise mon expérience avec Dieu. Notre vie avec Dieu, c'est comme un livre. Et ce qui est écrit dedans, c'est ce que nous vivons avec lui. Et chacun construit son histoire avec Dieu. Et au fur et à mesure où vous construisez votre histoire avec Dieu, vous grandissez dans la relation avec Dieu. Nous grandissions dans la relation avec Dieu. Alors, au verset 1 et 2, ce texte nous présente l'éternité de Dieu. L'éternité. Et le texte donc va nous présenter une lamentation. Je ne sais pas si on pourrait le classifier comme lamentation, ce texte. Oui, dans un sens, oui, parce que il insiste sur la brièveté de la vie. Puis c'est vrai que nous pourrions nous lamenter sur la brièveté de la vie, et parfois même sur l'inutilité de notre vie. Et je comprends un petit peu les personnes qui vieillissent, c'est qu'à un certain âge, commencent à être désabusées de la vie, perdent intérêt dans la vie. Tu sais. Ils réalisent peut-être qu'après quelques décennies, que leur vie n'a peut-être pas le sens qu'elle aurait dû avoir. Tu sais. On reste un petit peu comme sur une genre de déception, tu sais, une genre de désillusion. Tu sais. Et je comprends que des personnes âgées puissent être désabusé, tu sais, face à la vie, à la brièveté de la vie, parce que ça passe vite. Ça passe vite. Moi, j'ai l'impression que c'était juste hier que j'étais en train d'étudier. Puis dans ma tête, là, je sais que les années ont passé, mais ça faisait hier là, tu sais, que j'étais encore aux études, soit à Paris ou à Toronto, là. Et pourtant, je vous le dis, ça passe très, très vite, là. Et on ne réalise pas que ça passe vite. Et pourtant, le psaume nous dit, le sage, c'est celui qui compte ses jours, ici, là, qui compte bien ses jours. Alors donc, j'aimerais, à travers de ce passage, nous encourager à bien compter nos jours. Alors, pourquoi nous encourager à bien compter nos jours? Bien, premièrement, parce que la vie est brève. Au verset 3 à 6, la description de Moïse nous rappelle cette réalité-là. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Tu dis, fils de l'homme, retourne. Et ce que dit ce passage, c'est que la vie est brève parce que Dieu l'a faite ainsi. Le pronom personnel employé, c'est Dieu. Et regardons la première action de Dieu dans ce passage, au verset 3 et 4. Donc non seulement tu fais retourner les hommes à la poussière, mais le verset 4 dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » C'est intéressant, hein, de voir que la première action de Dieu, c'est qu'il fait retourner l'homme à la poussière. Et c'est vrai que c'est Dieu qui contrôle notre vie. Hein. Et Dieu peut nous rappeler à lui n'importe quand. Il y a quelques années, un jeune dont les parents étaient membres de l'église où j'étais pasteur, pas celle où je suis actuellement, mais mon pastorat précédent, il est parti étudier à Bethel. Je ne sais pas si vous connaissez Parole de vie à Bethel. Ils ont une année, 11 mois de formation pour les jeunes après le secondaire. Et il est devenu malade. Et il n'a pas pu finir l'année. Puis il est décédé. Il avait 20 ans. Et ils ont fait le service à Laval. Je crois que c'était à l'église Le Portail, qui portait un autre nom à l'époque. Là, mais il y avait beaucoup de jeunes à ce service, beaucoup de jeunes. Ça, c'est l'avantage. Quand tu meurs jeune, tu as beaucoup de gens à ton service. Quand tu meurs vieux, il n'y a pas grand monde. T'sais. Parce que tous tes amis sont morts avant toi. T'sais. Alors, tu te retrouves... Puis là, si tu espères que ta vie porte quelque chose, au moins durant ton service, là, tu te retrouves avec trois pelés et un tondu. T'sais. Donc, pas grand monde. Mais il y avait beaucoup de monde. Là, t'sais. Puis tout le monde a été marqué par la réalité de la brièveté de la vie. Est-ce qu'il faut que quelqu'un de jeune décède pour qu'on se rappelle la brièveté de la vie ? En tout cas, Moïse veut nous le rappeler à travers ce passage. Et il veut nous rappeler que c'est Dieu qui fait retourner les hommes à la poussière. Et le texte dit, Dieu parle et dit, fils de l'homme, retourne. Enfin, j'aime assez bien la manière dont c'est exprimé. Parce que quand je vais retourner la poussière, ce ne sera pas par hasard. Parce que Dieu l'aura décidé. En quelque sorte, même si la vie est brève, dans sa souveraineté, c'est Dieu qui décide. Et moi, je peux m'appuyer sur la souveraineté de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il fait retourner l'homme à la poussière. Et le texte nous dit aussi que Dieu, le Dieu éternel, est le créateur du temps. Regardez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Dieu a créé le temps, il a tout créé, et la perspective divine du temps est tout à fait différente de la nôtre. En fait, nous savons, selon la parole, que Dieu est hors du temps, hein, et que Dieu contrôle le temps, mais il nous a enfermés dans le temps. Je dis cela parce que parfois on se sent coincé dans le temps. Surtout s'il y a un examen qui s'en vient, puis on n'est pas prêt. Ou surtout si on doit rendre le devoir demain, puis on essaie de l'écrire jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Vous savez, je me rappelle d'un examen que j'ai dû passer à un moment donné, puis j'avais étudié toute la nuit, nuit blanche. T'sais. Puis c'est un examen de langue. On appelle ça chez nous en France faire du bachotage. C'est-à-dire que tu travailles 24 heures avant, tu sais. Tu t'en rappelles plus ou moins à l'examen, puis quand tu sors de l'examen, tu ne te rappelles plus rien. Et là, on se sent coincé dans le temps quand ça arrive, hein, puis là, on est nerveux. Là, tu sais. Et parfois, on fait des erreurs à cause de ça. Mais regardez la perspective divine. Dieu nous dit que le jour, c'est rien. Un jour, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme le jour d'hier. Puis le jour d'hier, ça passe. Hein. Quand on attend quelque chose, c'est long. Moi, je me rappelais quand j'étais à Paris, à partir du mois de janvier, quand ma femme est partie, c'était long. Ça n'a jamais été aussi long que ça. T'es. Et puis une fois là, que tu te maries, hop, tiens, le jour du mariage, ça vient de passer en... comme ça. T'es. Puis le jour où tu as eu ton premier enfant, ça vient de passer comme ça. C'est vrai ça, Ruben ? Et puis toutes les choses auxquelles on a aspiré pendant des semaines et des mois pour lesquels on a travaillé, qu'on a attendu avec impatience, quand ça arrive, je claque. Ça passe. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Le temps passe encore plus vite aux yeux de Dieu que nous pouvons même le réaliser, c'est dans notre expérience humaine. Et le texte nous dit aussi que le jour d'hier, c'est comme une veille de la nuit. Ça passe vite une veille de la nuit quand tu es fatigué. Hein. Tu as les yeux qui s'appesantissent là. Puis la prochaine chose que tu sais, si tu te réveilles, c'est le matin. T'sais. Oh, la veille, ça passe vite. Hein. Et le verset 5 et 6 continuent dans ces images poétiques, ces comparaisons pour indiquer que le temps passe. Mais ces versets 5 et 6 nous présentent aussi la deuxième action de Dieu, c'est-à-dire que Dieu emporte ces journées-là comme un torrent peut emporter tout ce qui déferle. C'est sûr que dans la traduction en français, on ne le voit pas très bien, mais le terme « tu les emportes », vous voyez, c'est encore Dieu, là, hein, qui contrôle le temps, qui fait que ça passe vite. Dieu a voulu ça ainsi, hein, probablement pour humilier l'homme et le faire réfléchir. Mais le texte dit « tu les emportes », et le terme employé dans l'original en hébreu, c'est une expression qui est souvent utilisée en rapport avec un torrent qui emporte tout devant lui. Vous savez que dans le Proche-Orient ancien, je pense on appelle ça des wadis, c'est ça ? Tu sais, t'as des torrents, là, mais qui sont secs. Et si tu ne connais pas l'endroit, si jamais il y a comment dirais-je, une pluie super abondante, très rapidement, ça peut se transformer en torrent. Puis tu peux être piégé à travers ça. Puis là, ça dévale. T'sais. Dans le sud de la France, près de Anduze, il y a le fleuve là, du Gard, là, c'est ça. Ouais, c'est ça le Gardon, qui descend, là, qui vient des Cévennes. Et je vous dis, c'est impressionnant. Parce que il y a quelques années, je suis allé voir une cousine qui habitait là, puis on est allé dans la ville d'Anduze. Puis à un moment donné, dans la ville d'Anduze, sur l'extérieur d'une maison, tu vois, comme un genre de c'est pas thermomètre, mais comment tu dis ça là, c'est une échelle, merci. Une échelle, puis c'est pas 5, 10, 15, 20 centimètres, là, tu sais. C'est un demi-mètre, c'est un mètre, c'est un mètre et demi. Et c'est les niveaux d'eau qui nous indiquent jusqu'où l'eau est montée lors des déversements là, du Gardon et des inondations. Mais c'est incroyable parce que le Gardon. Le lit du Gardon, il est quand même creusé en quelque sorte, parce que tu as des murs de chaque côté, puis tu as la route en haut qui passe avec les maisons. Donc ton fleuve, il est carrément encastré là. Puis quand tu passes l'été, là, tu vois un petit peu d'eau qui coule, mais tu as plein de cailloux, les gens peuvent marcher là. Puis quand ça dévale, tout ça s'est rempli d'eau, puis ça déborde jusque dans la ville. Puis ce n'est pas des petits murs là. Je ne sais plus quelle hauteur ça a, mais c'est peut-être. C'est bien plus haut que les murs ici de cette pièce. Là, t'sais. Et quand ça arrive, là, c'est dévastateur. Vous avez des campings qui sont inondés. Ça emporte tout. Ça, c'est l'image qui est employée dans le psaume ici. Tu les emportes. Dans l'original, le mot emporter est utilisé pour les torrents. Et l'image est très forte. Pour un juif qui écoute ça, tout de suite, il comprend. Tu les emportes semblables à un songe. L'autre image qui est employée, c'est celui d'un songe. Est-ce que ça vous est arrivé ce matin de vous réveiller ? Peut-être chez vous, vous le faites là. Puis vous réveillez, puis vous vous rappelez un petit peu votre songe là. Puis à partir du moment donné où vous réveillez comme il faut, là vous oubliez votre songe. Et c'est incroyable. Puis là on est là, puis on veut se rappeler, puis on essaie de se rappeler notre songe. Puis ça nous échappe là, tu sais, ça nous coule entre les doigts. C'est comme de l'eau là, tu ne peux pas retenir de l'eau. Et le songe s'en va. Ça arrive souvent, ça. Deuxième, notre comparaison qui est employée au verset 5, c'est la comparaison de l'herbe. Non seulement Dieu nous emporte notre vie comme un torrent qui ramasse tout sur son passage, ou comme un songe, mais aussi comme l'herbe. Il y a certains types d'herbes qui fleurissent le matin, et puis elles passent, puis le soir, on la coupe, puis elles sèchent, fini. Notre vie est semblable à cela. Puis elle est semblable à cela que vous soyez un étudiant, quelqu'un qui fait une formation plus pratique, que vous soyez intellectuel, que vous ne soyez pas, que vous soyez un professionnel, que vous ayez des métiers importants dans la vie, que vous arriviez plus ou moins haut dans l'échelle sociale, c'est la même chose. Ne croyons pas par orgueil que de grimper l'échelle sociale ferait en sorte que ça changerait cette réalité-là. Ce n'est pas vrai. Ça passe. Ça passe. Et si la vie est brève, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et au verset 7, nous avons la raison de la brièveté de la vie. Et c'est ce que nous allons regarder des versets 7 à 10. Versets 7 à 9, Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et là, on a vraiment l'explication de la brièveté de la vie. C'est que la brièveté de la vie est le fruit de la colère de Dieu. Alors aujourd'hui, on n'aime pas parler de la colère de Dieu. On préfère mieux parler de son amour. Mais il faut être honnête, si nous ne parlons pas de la colère de Dieu, le genre d'amour dont nous parlons, ce n'est pas du tout l'amour dont il est question dans la Bible. Parce que aimer quelqu'un qui t'aime, c'est facile. Mais aimer quelqu'un envers qui tu es en colère, ça c'est autre chose. Et Dieu nous aime, mais en même temps la Bible nous dit que Dieu est en colère contre nous. Donc il y a ce paradoxe dans la Bible qui nous présente la colère de Dieu contre nous et en même temps son amour envers nous. Et vous savez comment cet amour envers nous se manifeste ? C'est parce que Dieu a décidé de faire passer sa colère de nous sur son Fils Jésus-Christ pour que lui et son Fils subissent la fureur de Dieu à cause de notre péché, à cause de mon péché. Pour que si son Fils subit la colère de Dieu à ma place, maintenant quand Dieu me regarde, il me regarde avec amour. Donc, si la colère de Dieu n'existe pas, la grandeur de l'amour de Dieu n'existe pas non plus. La grandeur de l'amour dépend du fossé qui te sépare entre toi et la personne. Si la personne t'a fait du mal, si tu en veux à cette personne et que tu décides malgré tout de manifester de l'amour, c'est un amour bien plus grand que si cette personne est bien gentille avec toi. Vrai ? C'est ça l'amour de Dieu. Hier, tu as parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On aura un petit moment, si vous voulez, cet après-midi. Là, c'est facultatif si vous avez des questions sur l'Ancien Testament. Mais le Dieu du Nouveau Testament, là, ce n'est pas un Dieu d'amour seulement. Parce que Jésus il a beaucoup parlé de la géhenne, de l'enfer, de la condamnation. Et on a parlé bien plus souvent qu'on pense. Donc quand on essaie de séparer l'Ancien Testament en deux, en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, puis le Dieu du Nouveau, c'est un Dieu d'amour, c'est parce que vous n'avez pas bien lu le Nouveau Testament. Puis vous n'avez pas bien lu l'Ancien non plus. Parce que dans l'Ancien, Dieu, il dit qu'il aime son peuple comme la prunelle de ses yeux. C'est quand nous, on a une petite poussière dans l'œil, et je te dis qu'on en prend soin, tu sais. Et Dieu aime son peuple dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment une remarque superficielle de croire qu'il y a deux dieux, le dieu de l'ancien, celui qui est en colère, puis le dieu du nouveau, celui qui est un dieu d'amour. Alors voilà un petit peu cette colère de Dieu au verset 7, regardez, elle nous consume. Et elle nous consume parce que nous sommes mortels. Elle nous amène à la mort, cette colère de Dieu. Puis ça, c'est les conséquences du péché dans Genèse. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, oui, parce qu'on est séparé de Dieu, mais c'est aussi la mort physique. C'est pour ça que nous vieillissons. Mais l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très encourageant. Il dit, même si notre tente extérieure se détériore, notre vie intérieure, elle se renouvelle. Donc en fait, mes amis, même si je suis venu ici pour rajeunir avec vous, je peux vous dire que je suis plus jeune que vous. Parce que normalement, si on vit dans la vie chrétienne, ah, peut-être pas avec toi, Jocelyn, mais si on vit dans la vie chrétienne depuis un certain temps et qu'on grandit, la Bible dit que Dieu nous renouvelle, il nous ressource. Donc spirituellement, je devrais être en meilleure vie spirituelle que ce que j'étais il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Alors voilà, la colère de Dieu, si nous sommes mortels, c'est à cause de la colère de Dieu. Et cette colère, elle demeure sur nous, même si nous sommes ses enfants, elle demeure sur nous parce que nous sommes mortels. Ça, c'est la conséquence de notre péché. Dieu nous sauve, oui. Il nous donne la vie éternelle, oui. Il va nous ressusciter, oui. Mais nous sommes encore marqués par les conséquences de ce péché dans ce sens que nos vies passent et que le temps passe et que Dieu nous consume à travers le temps. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, ne fait pas que cela. Alors, Le verset 11 aussi nous dit, voyez-vous, verset 11, « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ?» Ta vie n'est qu'un passage rapide, éphémère, sur cette terre. Est-ce qu'à cause de cela, tu tiens compte de la colère de Dieu ? Est-ce qu'à cause de cela, tu crains Dieu ? Le texte nous dit ça, verset 11. « Qui prend garde à ton courroux selon la crainte qui t'est due ?» Oui, Dieu m'aime. Oui, Dieu a pardonné mes fautes. Oui, je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que je crains Dieu ? Est-ce que je me rappelle que je ne suis rien sans Dieu, là ? Est-ce que je me rappelle que ma mort, c'est un effet de la colère de Dieu, même si je suis touché par la grâce et l'amour de Dieu, une grâce extraordinaire ? Ça devrait changer notre vie. Et ça devrait nous apprendre à bien compter nos jours. Alors, au verset 9, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. » Ça, c'est clair. C'est extrêmement clair que la colère de Dieu nous consume. C'est extrêmement clair que nos jours disparaissent à cause de la colère de Dieu. C'est ce que nous dit Moïse. Et en fait, au lieu de me décourager, je devrais reconnaître que je m'approche inexorablement du jour de ma mort et je m'y rapproche parce que je le mérite. Et au lieu de me rebeller contre cela, au lieu d'être amer, au lieu d'être désillusionné face à cette vie qui passe si vite, bien je devrais me rappeler que c'est ce que je mérite. Mais je devrais me rappeler aussi que Dieu, dans sa grâce, veut intervenir pour que tout ne s'arrête pas là. Et Dieu m'a promis que si je suis pardonné de mes fautes, que je suis devenu un enfant de Dieu, que je lui appartiens, il va me ressusciter et il va me donner la vie éternelle. Et ça, c'est l'élément de la foi dans notre vie. Le dernier ennemi, c'est qui ? C'est la mort. Et c'est le dernier ennemi contre qui chacun d'entre nous allons lutter, à moins là que je meure instantanément sans m'en rendre compte. Je n'aurai pas de combat là. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Et ce dernier ennemi me rappelle que je suis pécheur. Et ce dernier ennemi me rappelle que je mérite la mort, mais ce dernier ennemi me rappelle aussi que Dieu, dans sa grâce, est plus grand que cela. Et que Dieu veut me ressusciter pour que je puisse vivre avec lui pour l'éternité. Alors donc, la colère de Dieu se reflète dans la brièveté de notre vie. Et regardez le verset 9. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. C'est quoi ton prénom, là, guitariste ? Comment il s'appelle, le guitariste ? Élie ? Tu veux prendre ta guitare ? Juste une minute, là. Puis tu nous fais un accord en le faisant sonner. Tu sais, vraiment, là, tu le laisses sonner. Ça, c'est notre vie. Fini. C'est ça que... Merci. C'est ça que le texte dit. Ouais, notre vie, c'est ça. Donc, la colère de Dieu, d'après ce passage, elle est causée par le péché. C'est ce que nous voyons au verset 8. « Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. » C'était très clairement associé à la brièveté de la vie. C'est ce que dit Romains au chapitre 1. Vous savez, vous vous souvenez, verset 18 et suivant. « La colère de Dieu se manifeste contre tous les êtres humains. » Parce que tous les êtres humains comprennent quelle est la puissance et la divinité de Dieu à travers quoi ? À travers la création. Ouais, mais tu sais, mes parents, ils n'ont pas eu la Bible entre leurs mains. Est-ce que vraiment Dieu ne peut pas les sauver ? Pareil, etc. Non, Dieu a parlé à tes parents. Il a parlé à tous les hommes, de tous les âges, de tous les temps, de toutes les races, de tous les continents. Parce que Dieu parle d'abord à travers la création. Et si à travers la création, on ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu puissant et qu'on change la création pour la transformer en idolâtrie, ben Dieu va nous juger de cette base-là. Alors bien sûr que Dieu se révèle plus tard par sa parole, par le Christ, mais Dieu parle à tous les hommes, nous dit Romains 1, à travers la création. Et aucun homme est juste devant Dieu. Et aucun homme n'a des excuses devant Dieu. Donc Dieu ne néglige pas le péché. C'est ce que le texte nous dit là. La colère de Dieu est causée par le péché. Dieu ne néglige pas le péché. Et le verset 9 nous dit « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. » Ce n'est pas presque tous. Peut-être qu'il y en aura un qui va rester. Au moins, j'aurai une petite réponse à ma soif d'éternité si un de mes jours pouvait rester. Mais le texte nous dit là, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. » La brièveté de notre vie. Dernier élément dans ce psaume, c'est à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Moïse va nous encourager à bien compter nos jours. Et il lance un appel à Dieu au verset 13 à 15. Il dit au verset 15, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Viens nous rassasier chaque matin pour que nous soyons dans la joie et l'allégresse, malgré le fait que nos jours passent, malgré le fait que la vie est brève. Et réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. » C'est humiliant, hein, de faire face à la brièveté de ma vie. Hein. C'est humiliant. Alors peut-être que je pourrais décider d'écrire des livres. Ah, ça va peut-être rester des livres. Salomon, il dit qu'on a écrit beaucoup de livres, puis c'est du travail pour rien. Salomon, il était grand bâtisseur, il a dit « Tout ça, c'est de la vanité. » Salomon, il a connu plein de femmes, et puis il dit « Tout ça, c'est de la vanité. Tout passe. Tout est rien dans notre vie. » Et là, il fait un appel à Dieu, Moïse. Il fait un appel à Dieu. Vous rappelez qu'ils ont vécu la libération de l'Égypte, l'esclavage, puis ils ont vécu dans le désert. Puis malgré cela, ils se rendent compte que tout ça, c'est une vie qui passe, qui n'a aucune substance, en quelque sorte. Et ils crient à Dieu, « Reviens, aie pitié, donne-nous ta consolation face à la brièveté de la vie. » On a besoin d'être consolé par Dieu. On a besoin de trouver en Dieu la satisfaction, nous dit le verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » Ce n'est que dans une relation avec Dieu que nous allons pouvoir expérimenter la joie face à la brièveté de la vie, face à cette vie qui n'est comme une vapeur. Vanité des vanités, c'est ça que ça veut dire. Dans l'original, là, c'est une vapeur. C'est rien. Ce n'est que lui qui peut nous rassasier et donner un sens à notre vie, et non seulement donner un sens, mais nous donner une joie réelle. Tu sais, c'est vraiment un paradoxe, là. La joie face à l'inutilité de la vie, la joie face à la brièveté de la vie, la joie face à quelque chose que nous vivons et qui, dans le fond, passe et ne sert à rien et on va tomber dans l'oubli. Mais comment on peut vraiment expérimenter une joie réelle dans une situation comme celle-là ? Parce qu'elle vient de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est Dieu qui change toutes les perspectives de notre vie. C'est incroyable. Vous avez des gens qui sont malades, qui vont mourir, qui sont remplis de la joie du Seigneur. Puis tous les autres autour d'eux, ils pleurent, puis eux, ils sont là en train de les consoler. Tu sais. Mais ça, c'est ce que Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un. C'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui transforme la valeur de notre vie. Et c'est pour ça qu'au verset 16 et au verset 17, vous avez cet appel à connaître Dieu et sa personne. Que son œuvre se manifeste à tes serviteurs. De quelle œuvre est-il question ici ? Quelle œuvre de Dieu ? Oh, c'est un terme général, l'œuvre, ce n'est pas précisé. Mais c'est l'œuvre de Dieu en général. Ce Dieu qui a non seulement créé, mais qui veut s'impliquer dans sa création, qui veut s'impliquer dans nos vies, au point où Dieu veut nous transformer. Tu sais. C'est quoi l'œuvre de Dieu, mes amis ? L'œuvre de Dieu, il a créé, il y a eu la chute. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant qu'il y a eu la chute ? Mais Dieu est en train de tout reconstruire à nouveau au travers des siècles. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire petit à petit. Il l'a promis d'abord à Ève. Ta descendance, c'est quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Il y aura une victoire là, sur Satan. Là. Il y aura une victoire. Puis il a choisi quelqu'un, Abraham. Puis d'Abraham, il a choisi un peuple. Puis il voulait que ce peuple soit son témoin. Puis devant l'échec de ce peuple, parce que l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un échec qui se perpétue sur des siècles. Ben, Dieu a visité son peuple en faisant venir son Messie pour nous donner le salut. Et là, depuis la venue de Jésus, Dieu est en train, au travers de son Église, hein, de se reconstruire un peuple, et tout cela va aboutir au retour de Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu que Dieu est en train de faire. Et moi, je fais partie de cette œuvre, et Dieu est en train de reconstruire ma vie qui a été marquée par le péché. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Est-ce que nous comprenons vraiment l'œuvre de Dieu au travers de l'histoire et quelle est la place que nous avons dans l'Église de Dieu au sein de cette histoire-là? Et le passage continue en parlant de la gloire. Et manifeste ta gloire sur leurs enfants, la gloire de Dieu. Dans Jean 1, nous avons vu la gloire de Dieu comme celle du Fils unique venu du Père. Comment on fait pour contempler la gloire de Dieu? C'est quand on contemple la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix pour nous. Et finalement, le texte finit, on va terminer avec ça au verset 17, « Que la grâce de Dieu, de l'Éternel notre Dieu, soit sur nous, affermit l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermit l'ouvrage de nos mains. Vous vous rappelez ce que dit Éphésiens? C'est par la foi, hein, que nous sommes chrétiens, bien sûr. Mais il parle non seulement de la foi dans Éphésiens, il dit que nous avons été sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc votre but, ce n'est pas d'avoir des diplômes universitaires et faire votre carrière. Votre but, c'est de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Et en faisant les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous, ben vous allez bien compter vos jours. Et malgré la brièveté de la vie, votre vie va avoir de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais terminer par le verset que j'ai sauté, mais qui représente le cœur de ce psaume, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Vous savez ce que c'est la sagesse selon les proverbes ? Ça commence par la crainte de l'Éternel. Amen.